en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Lors de la séance du 18 décembre 2006 de l'Académie des sciences morales et politiques, Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, faisait une communication sur le thème « La Cour des comptes à la veille du bicentenaire ». Retrouvons-le à la tribune de la grande salle des séances.
Bien, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier de l'Institut, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur le chancelier honoraire, messieurs les secrétaires perpétuels honoraires, mesdames, messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier très chaleureusement de m'accueillir ainsi pour votre dernière séance de l'année, cette année que vous avez donc consacrée, le président nous le rappelait à l'instant, à la justice. Siéger parmi vous en robe de magistrat est une grande fierté. C'est aussi, n'en doutez pas, une marque de considération à votre égard. C'est la première fois, en effet, que je revais cette robe hors du palais Cambon. Je ne suis certes pas le premier membre de la Cour à m'exprimer devant votre compagnie. Je ne saurais oublier, en effet, que 6 de nos magistrats, dont 2 premiers présidents, ont été membres de cette Académie. Le premier de mes prédécesseurs, que vous avez cité, François de Barbet-Marbois, que tout eût semblé désigner, n'eut pourtant pas cet honneur. Il était trop tôt pour lui avant 1803, année de la suppression de la section des sciences morales et politiques de l'Académie, et trop tard en 1832, lorsqu'elle fut rétablie. Voilà qui nous rappelle au passage que Napoléon Bonaparte, qui allait refonder la Cour en 1807, ne fut pas toujours également inspiré dans son œuvre institutionnelle. Il reste que 2 autres premiers présidents furent appelés à siéger, le comte Siméon, élu d'ailleurs l'année même de la restauration de l'Académie, et Félix Barthe. Celui-ci, Félix Barthe, impressionna toujours l'ensemble de ses collègues ainsi que ses confrères par le soin qu'il mettait constamment à la bonne gestion de sa carrière. Dans ce domaine, il est vrai, il ne laissait rien au hasard. Premier président de la Cour à 39 ans, Félix Barthe ne résista pas peu après sa nomination à la tentation d'un portefeuille ministériel. Mais pratiquant avant l'heure le principe de précaution, il prit soin de ménager ses arrières en poussant pour le remplacer à la tête de la Cour le comte Siméon, précisément, qui était déjà alors âgé de 88 ans. 2 ans plus tard, revenu de son escapade et profitant du départ à la retraite du comte, départ qu'il n'avait pas manqué de susciter et faciliter, Félix Barthe put se réinstaller dans son fauteuil de premier président. Le 3e membre de la Cour à rejoindre le palais Mazarin fut un de nos plus illustres magistrats, un des pères de la comptabilité publique, le marquis d'Audifray. Vinrent plus tard Alfred de Fauville, élu en 1896 et désigné secrétaire perpétuel de l'Académie en 1909, puis Auguste Arnonnet, spécialiste des problèmes de monnaie, de crédit et de change. Élu en 1912, il présida l'Académie en 1924. Enfin, certains d'entre vous se souviennent certainement de l'éminente et si respectable personnalité de René-Alexis Brouillet, magistrat, ambassadeur, collaborateur du général de Gaulle, qui entra à l'Académie en 1987 et mourut en 1992. Ces magistrats furent parmi les plus remarquables de notre propre compagnie. Inutile de vous dire combien nous sommes fiers qu'ils aient été reconnus par la vôtre. Mesdames, Messieurs, je suis d'autant plus heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui que nous sommes au seuil d'une année très particulière pour la Cour des comptes. En effet, par une coïncidence aussi singulière que significative, la Cour célébrera en 2007 son bicentenaire, en même temps qu'elle étrennera les nouvelles compétences que lui a confiées le législateur et dont l'exercice va constituer pour elle un tournant majeur. La certification des comptes de l'État et de ceux de la Sécurité sociale, le contrôle de l'exécution du budget de l'État dans une logique de performance. Alors je sais bien que toute institution de la République souhaite convaincre qu'elle a su réussir une synthèse opportune entre ses traditions fondatrices et la nécessité de s'adapter à son temps. Mais il me semble que la conjonction des deux circonstances que j'ai évoquées me dispense de cet exercice quelque peu convenu. Les faits parlent d'eux-mêmes. En fait, l'histoire de la Cour est aussi la chronique d'une extension progressive de ses missions, et ce, dès ses premiers jours. Napoléon lui-même avait d'emblée invité la Cour à porter son regard au-delà des comptes et à lui faire part des constats qu'elle pourrait faire dans les domaines les plus variés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. On devine la pressante invite, en dehors même de ce qui relève de vos strictes et originelles compétences, « Dites-moi donc ce que vous avez vu de notable, d'intéressant ou de critiquable à la faveur de vos investigations. » Et du coup, l'histoire de la Cour n'aura jamais été celle d'un long fleuve tranquille. La Cour, ainsi instituée à la fois juridiction et corps de contrôle externe de l'administration, a suscité très souvent craintes et réserves. On a pu même parfois chercher à limiter ou à contenir ses pouvoirs, tentation qui ressurgit de temps à autre, sous les prétextes les plus divers. Cela n'aura pas empêché la Cour d'accomplir un chemin considérable. Et c'est cette aventure qui n'est au fond qu'un reflet de l'histoire institutionnelle de la France, de ses vicissitudes, de ses réussites, que votre invitation me permet d'évoquer. On peut affirmer avec une égale légitimité que la Cour est née avec la monarchie et qu'elle est fille de la démocratie. Monsieur le Président, cette caractéristique paradoxale ne vous impressionnera probablement pas. La ville qui vous est si chère n'est-elle pas à la fois la ville royale, le berceau de nos institutions parlementaires et un haut lieu de la République? Pour dire vrai, la naissance de la juridiction financière est difficile à dater. La seule certitude en la matière, c'est que sa genèse fut inspirée d'abord par le souci de protéger les intérêts personnels du souverain. Comme le souligne Pierre Moineau, procureur général honoraire, que vous croisez sans doute de temps en temps dans les couloirs de ce palais, l'origine de la Cour est aussi confuse que sa nécessité est claire. Tout pouvoir exige un trésor. Tout trésor exige un compte, tout compte exige un juge désintéressé. Le roi devait trouver des conseillers financiers efficaces aptes à contrôler les innombrables comptes que rendaient prévôts, baillis, sénéchaux et autres receveurs qui, de leur province, étaient censés rassembler les produits du domaine royal pour les lui envoyer prestement. Ces conseillers faisaient partie de la Curia Regis, cette cour composée de proches et de spécialistes qui suivaient le roi partout pour l'assister dans les fonctions les plus importantes. Et c'est de ce terreau commun et au terme d'une spécialisation et d'une formalisation progressive des procédures que naquirent le Conseil d'État, le Parlement et la Chambre des comptes de Paris, laquelle bénéficia dans son domaine d'une prééminence qui ne fut jamais un monopole, car pour répondre à des besoins similaires, d'autres chambres des comptes ne manquèrent pas de se constituer dans les provinces. Ce retour sur nos toutes premières origines n'est pas innocent. Il montre bien que la juridiction des comptes a le même patrimoine génétique, la même filiation que le Conseil d'État ou que l'ordre judiciaire, et qu'elle n'est donc pas une juridiction par hasard. Pourtant, malgré l'esprit de modération qui les inspira dans l'exercice de leurs compétences, les chambres des comptes de l'ancien régime suscitèrent, tout comme le Parlement d'ailleurs, la méfiance des révolutionnaires qui les supprimèrent dès 1791. Et l'on testa d'autres formules. C'est ainsi qu'on créa d'abord un bureau de comptabilité placé auprès du corps législatif. L'inefficacité du système ne tarda pas à faire sentir ses effets. Le défaut de contrôle réel sur les comptabilités ouvrit la voie à toutes sortes d'abus. Alors pragmatiquement, on se rabattit sur la solution opposée, en créant cette fois une commission de la comptabilité nationale travaillant pour le pouvoir exécutif. Elle ne réussit pas davantage à faire ses preuves. Et pendant ce temps, les prévaricateurs continuaient à s'en donner à cœur joie, et il devenait de plus en plus urgent de rétablir un système sérieux et efficace de contrôle des comptes. On ne peut soupçonner Napoléon de n'avoir pas veillé à sauvegarder les prérogatives du pouvoir exécutif. Et pourtant, il dut bien admettre, sur les conseils de son ministre du Trésor public, le comte Mollien, qu'une juridiction indépendante serait plus utile qu'un office parlementaire ou une simple commission, fût-elle à sa dévotion. Le mérite de Mollien a été immense, son message reste d'actualité. D'ailleurs, son buste, depuis quelques semaines, a quitté Versailles pour la cour, afin que nous puissions lui rendre l'hommage que nous lui devons. Et c'est ainsi que fut créée en 1807 une cour des comptes, juridiction composée de magistrats inamovibles. Le principe de l'indépendance des magistrats, de la collégialité de la décision, de la procédure contradictoire et du secret de l'instruction, qui en étaient les caractéristiques essentielles, allait ainsi apporter, comme ils le font aujourd'hui encore, la première garantie de la qualité des contrôles. Si je porte cette lourde robe de velours d'un autre âge, ce n'est pas par plaisir, je vous l'assure, ou par goût de la pompe, c'est que cette robe symbolise l'intégrité de notre héritage et la haute valeur que nous lui accordons. Le statut de magistrat ne nous apporte aucun avantage matériel particulier. Il est bien loin, en effet, le temps où le justiciable devait verser au juge des comptes une contribution proportionnelle à l'importance financière des comptabilités qu'il remettait. On appelait cela les épices. Non, notre attachement à notre statut de magistrat manifeste simplement notre volonté d'accomplir nos missions selon les principes d'impartialité les plus exigeants. Pourtant, il ne serait pas illégitime de s'interroger, certains n'y manquent pas, pourquoi une juridiction, alors qu'outre-Manche et outre-Atlantique, on semble faire la même chose avec un simple office administratif? Et la question mérite d'autant plus d'être posée que la fonction contentieuse tient une place moindre que jadis dans nos travaux, même si, je ne puis m'empêcher de le noter au passage, le nouveau contexte créé par la réforme budgétaire et comptable, celui d'un allègement des contrôles a priori, me semblerait rendre fort opportun le renforcement des régimes de responsabilité juridictionnelle des comptables et des ordonnateurs. Mais laissons cela et apportons à la question sa réponse, qui est simple. Il est apparu dès l'origine que les enjeux économiques et politiques du contrôle des comptes et des finances publiques étaient tels qu'ils impliquaient une indépendance insoupçonnable assortie de garanties déontologiques particulièrement fortes. Ce n'est donc pas seulement la fonction contentieuse de la Cour qui justifie son statut de juridiction, c'est ce besoin d'indépendance et d'impartialité dont la matrice la plus achevée et la plus convaincante résiste historiquement dans la magistrature. Il n'en demeure pas moins qu'en 1807, si la Cour a bien acquis son statut de juridiction, elle demeurait fondamentalement le reflet des institutions d'alors. Elle est alors d'abord et avant tout au service de l'empereur. Elle ne rend compte qu'à lui et ne saurait le gêner dans son administration. Il n'est pas question en particulier qu'elle s'attribue juridiction sur les ordonnateurs. Le pouvoir peut bien tolérer une juridiction de contrôle, mais elle ne doit quand même pas outrepasser les limites du raisonnable. C'est pourquoi une des parties importantes des comptes échappe à la juridiction, notamment les cassettes personnelles de l'empereur, le trésor de l'armée, ainsi que de nombreuses dépenses secrètes réservées aux ministres, et notamment aux ministres des Relations extérieures. Talleyrand sut bien en profiter, en ne rendant jamais un seul compte à la Cour. Et de tout cela, il reste aujourd'hui quelques traces. ces évocations nous renvoyant à quelques débats récurrents. Et pourtant, bien que création, voire créature de l'empereur, la cour va lui survivre, comme elle survivra aux différents bouleversements institutionnels qui ont marqué ces deux siècles d'existence. Même si elle en essuiera parfois quelques dommages qu'on qualifierait aujourd'hui de collatéraux. Installée à l'origine sur l'île de la Cité avec le palais de justice, la cour emménage en 1842 au palais d'Orsay, qu'elle partage avec le Conseil d'État. En 1871, elle est avec lui la proie des violences de la Commune. En une nuit mémorable, elle brûle entièrement, tout comme le ministère des Finances, rue de Rivoli et le palais des Tuileries. Alors nous y voyons pour nous consoler le signe d'une sorte de reconnaissance de la place institutionnelle qu'elle avait alors acquise. Pour qu'elle brûle plus vite, les communards l'avaient remplie de tonneaux de graisse et d'explosifs. Il avait ficelé de matelas aspergés d'essence. Le feu prit avec une telle vigueur que des colonnes d'air chaud propulsèrent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur des centaines de liasses comptables qui furent ainsi éparpillées sur tout Paris. Il en tomba, dit-on, jusqu'à la forêt de Saint-Germain, où certains magistrats riverains venaient en ramasser pendant leur promenade dominicale. Preuve, si vous en fallait, du sérieux ancestral des membres de notre compagnie. Cet incendie vaudra d'ailleurs le plaisir aux riverains et sans doute aux académiciens de bénéficier à leurs portes et pendant quelques années, jusqu'à la construction de la gare d'Orsay, d'un paysage à la Hubert Robert. Les jours de beau temps, les peintres se bousculaient aux grilles pour immortaliser le pittoresque des ruines. Avec malice, Théophile Gautier ne manqua pas de remarquer que les ravages de l'incendie avaient au moins contribué à adoucir les lignes un peu trop sévères du palais. Chacun y trouva son compte en tout cas. Camille Flammarion s'enthousiasma pour ce site devenu forêt vierge, rempli de rennes des prés, de framboisiers, de redoncules, de clématites, d'érables et de platanes, au total près de 150 espèces différentes. Moins bucolique et plus pragmatique, Aristide Briand y serait venu quant à lui chasser une espèce à peine plus comestible, le gypaète barbu. Pas d'intermède, en revanche, pour la cour, qui s'était réfugiée avec le Conseil d'État au Palais-Royal et s'était très vite remise au travail. Ce ne sera qu'en 1912, après quelques décennies passées fort à l'étroit dans l'aile de Montpensier, qu'elle rejoindra la rue Cambon pour une demeure spécialement conçue pour elle. Ces péripéties immobilières entre rive gauche et rive droite ne relèveraient que de l'anecdote si elle n'était aussi l'illustration d'une évolution plus profonde de l'institution et de son positionnement. Car derrière les déménagements successifs, s'est également dessiné un déplacement institutionnel. L'histoire de la cour est en effet celle de la construction progressive d'un équilibre. Créée pour le service de l'empereur, la cour s'est progressivement émancipée pour trouver une position tout à fait originale qui la distingue de la plupart des institutions supérieures de contrôle étrangères. Dès 1822, elle a entamé ainsi une collaboration fructueuse avec les assemblées. Et elle les a aidées pour le contrôle de l'exécution des lois de finances. En 1832, une loi lui a même permis d'extresser au Parlement le rapport annuel qui était jusque-là exclusivement destiné au souverain. Depuis lors, elle n'a cessé d'accroître sa mission d'assistance aux parlementaires et multiplier les travaux qu'elle réalise pour eux et leurs demandes. Il faudra attendre encore plus d'un siècle, néanmoins, et la veille de la Deuxième Guerre mondiale, pour que le rapport annuel devienne enfin public. L'événement est tout à fait considérable. La Cour a ainsi conquis le droit de s'adresser directement aux citoyens et d'apporter ainsi une manière de traduction concrète à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. La Cour devient un intermédiaire indispensable entre les pouvoirs publics et les citoyens. C'est à elle qu'il revient de faire la lumière sur l'action de l'administration et d'en démontrer les forces et les faiblesses. Les années qui vont suivre conforteront cette position et ses missions. Le rapport public est suspendu par le régime de Vichy, cela va sans dire, il est rétabli en 1945. En 1958, le constituant consacre le rôle de la Cour en disposant qu'elle assiste le Parlement et le gouvernement. Et en 2001, le Conseil constitutionnel affirmera qu'elle a le devoir de surcroît de veiller à ce que cet équilibre ne soit en aucun cas faussé au profit de l'un ou l'autre des deux pouvoirs. On aura bien compris que la Cour n'est pas un organe d'inspection, n'est pas un corps d'inspection ministérielle. Elle ne dépend pas de la ministre. D'ailleurs, le budget de la Cour depuis l'an dernier et sa gestion ne dépendent plus du ministre des Finances, qui par définition est le premier interlocuteur, j'allais dire le premier client de la Cour. La Cour n'est pas non plus un service du Parlement. Et si nous effectuons pour lui les enquêtes qu'il nous demande, si nous devons, de par la Constitution, une mission d'assistance, nous l'exerçons dans le cadre et dans le respect du principe d'indépendance. Alors, qu'on m'entende bien, je ne conteste pas la réalité de l'indépendance des organismes de contrôle étrangers qui n'auraient pas le statut de juridiction ou de ceux qui sont rattachés au Parlement pour les uns ou au gouvernement pour les autres. Mais il faut alors une grande sagesse, généralement héritée de la tradition, pour que le contrôle ne soit jamais affaire partisane. D'ailleurs, force est de constater que la préoccupation constante de ces organismes de contrôle est précisément d'obtenir des garanties similaires à celles d'une juridiction, et en particulier celles qu'apporte l'inamovibilité des dirigeants et la liberté de programmation. Nous avons quant à nous la chance d'avoir hérité de ces garanties. Nous sommes donc d'autant plus réticents à toute perspective de remise en cause de ce qui, dans notre héritage, fait la force de nos travaux. D'autant que nous n'avons pas seulement des devoirs envers le gouvernement ou le Parlement, nous en avons aussi désormais envers le citoyen. Et avec lui, nous ne nous en tenons plus à un rendez-vous annuel. Nous avons multiplié depuis plusieurs années les rapports thématiques livrés tout au long de l'année, sans compter les rapports sur les finances publiques que nous remettons au Parlement, mais qui sont en même temps publiés et destinés à tous. L'un, le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, constitue un véritable diagnostic des équilibres et des déséquilibres qui caractérisent le financement des besoins collectifs de la nation. L'autre, le rapport sur le résultat d'exécution budgétaire, examine désormais les résultats budgétaires et bientôt surtout la performance des administrations. Enfin, le troisième est consacré aux comptes de l'État. Il faudrait aussi mentionner le rapport annuel sur la sécurité sociale, les rapports non moins publics sur les associations caritatives ou sur les entreprises publiques. Tous ces rapports sont édités, diffusés, mis en ligne et surtout depuis plusieurs années, nous cherchons à communiquer autour de nos travaux pour en faire ressortir les principales conclusions dans un langage aussi simple et accessible que possible aux citoyens non initiés. C'est désormais dans le rôle des premiers présidents de porter ces messages, de se faire en quelque sorte les porte-voix de l'institution et de ses observations. Et nous tenons d'autant plus à ce devoir d'informer que les rapports publics sont une manière de prendre à témoin le citoyen et d'obtenir son appui pour que nos préconisations soient prises en compte. Il est dans l'instinct de toute institution de chercher à étendre son action et son audience. À cet égard, il faut bien reconnaître que les vents de l'histoire nous ont été tout particulièrement favorables. L'action publique, d'abord, n'a cessé de s'étendre et se diversifier. Parallèlement, montait des citoyens une demande accrue d'information et de transparence. La Cour a donc suivi ce mouvement. Elle s'est efforcée de répondre à cette demande pour intervenir dans un nombre croissant de domaines, partout où un risque pour le bon emploi des deniers publics se fait jour. Aujourd'hui, la Cour contrôle l'ensemble des institutions qui, à un titre ou à un autre, participent au service public. répondent aux besoins de la solidarité nationale, pardon, ou assument, par le biais de la perception de taxes ou de prélèvements obligatoires, des missions d'intérêt général. Comptes et gestion de la sécurité sociale, après un long combat, il est vrai, puisqu'il a fallu attendre 1950 pour que ce soit le cas, contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique ou bénéficiant de concours financiers publics, par exemple. C'est ainsi que nous publierons dans 2 semaines maintenant un rapport sur l'utilisation faite par les associations caritatives et les administrations des fonds collectés au lendemain du tsunami de l'océan Indien. Globalement, il faut le savoir, la Cour réalise chaque année près d'un millier de rapports et transmet au ministre et au Parlement autant de communications. Les communications constituant une sorte de sélection de ce que nos contrôles ont révélé de plus important. La Cour s'est également adaptée aux évolutions institutionnelles. En 1982, elle a donné naissance à 26 chambres régionales et territoriales des comptes dans toute la France, métropolitaine et ultramarine. C'est la décentralisation et l'affirmation des libertés d'administration locale que les chambres régionales vont ainsi accompagner par leur contrôle et en toute indépendance, dans le respect, bien sûr, des prérogatives des élus locaux. Enfin, comme je vous l'indiquais au début de mon propos, 2007, l'année de notre bicentenaire, sera également celle de la pleine application de nos nouvelles missions, celle que nous a confiée le législateur en 2001 puis en 2005, dans sa volonté de réformer radicalement la gestion des finances publiques de la France. La certification des comptes de l'État et de la sécurité sociale, le contrôle de l'exécution du budget de l'État dans une logique de performance. Je n'entrerai pas ici dans le détail de ces nouvelles missions, je voudrais simplement les mettre en perspective et surtout remettre en cause une idée reçue. La certification ne doit pas être un travail formel n'intéressant qu'une poignée de technocrates initiés. Je crois au contraire, le Parlement l'a bien senti en nous confiant cette mission, que la certification nous ouvre un champ sans précédent d'action et d'information du citoyen. Car il faut bien comprendre que la comptabilité publique traditionnelle ne nous donnait qu'une image tronquée de la réalité financière de l'État. On y retraçait en effet que les encaissements et les décaissements d'une année. Désormais, l'État devra, comme l'on dit, tenir également une comptabilité en droit constaté, avec un bilan et un compte de résultats. C'est cette comptabilité nouvelle qui fera l'objet de la certification. En matière d'information du citoyen, ce sera un saut quantitatif et qualitatif très important. L'approche patrimoniale qui complétera le suivi de la Caisse montrera dans quelle mesure l'actif de l'État a pu diminuer la dette augmentée, pourra permettre le cas échéant de se réjouir de la situation inverse. Bref, il indiquera dans quelles conditions l'exploitation courante, si j'ose dire, crée ou détruit de la richesse. Toutes informations qui n'étaient jusqu'ici que très partiellement, très imparfaitement accessibles. Alors cette nouvelle mission confiée à la Cour nous demande bien sûr une mobilisation toute particulière, l'adaptation de nos méthodes, l'accélération de nos travaux. Nous nous y sommes attelés résolument. Mais elle s'inscrit également dans une tradition et un savoir-faire, car nous n'avons jamais eu qu'un seul métier, les comptes. C'est à partir des comptes que nous déclinons nos différentes compétences. Le jugement de leur régularité, la certification de leur sincérité et de leur fidélité à la réalité financière, et ensuite, à partir de ce que les comptes nous disent sur la gestion, nous contrôlons l'efficacité, l'efficience des administrations et plus largement celle des politiques publiques. C'est assez dire que ces 3 compétences ne doivent pas être séparées. En réalité, elles s'imbriquent et elles s'enrichissent mutuellement. La qualité des travaux de la Cour, malgré ou plutôt à cause de sa spécificité, a été reconnue au plan international. La Cour a ainsi été choisie entre de nombreuses institutions supérieures de contrôle pour assurer le commissariat aux comptes des Nations Unies, celui de l'UNESCO, celui de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation de coopération et de développement économique, je parlais de l'OCDE. Le fait que nous concevions le contrôle des comptes et celui de la gestion comme complémentaires, là où beaucoup d'institutions supérieures étrangères les séparent de façon étanche, constitue un de nos principaux atouts, notre marque de fabrique en quelque sorte. La Cour des comptes est donc en pleine mutation, elle s'adapte, elle étend ses missions en France, à l'international. En même temps, elle change de visage et de rythme. Le temps où on achetait la charge de magistrat avec des barriques de vin, les pots de vin, et où on la transmettait à ses enfants en s'acquittant de la polette, cette taxe spéciale qui faisait de la charge un droit héréditaire, est bien loin. Depuis, le concours de l'ENA est venu remplacer la polette. La Cour accueille par ailleurs en son sein, et c'est sans doute son originalité, des personnes d'origine professionnelle diverse. Des directeurs d'administration centrale, des avocats, des préfets, des ambassadeurs, des auditeurs de grands cabinets spécialisés, des élus. Autre particularité du corps, l'essaimage, terme que je préfère et de loin à celui de pantouflage. Car plus fidèle, je crois, à la réalité du comportement de magistrats qui construisent souvent leur carrière autour d'allers et retours qui leur permettent d'enrichir les compétences déjà acquises à la Cour, tout en faisant bénéficier les postes d'accueil de leur propre méthode. À leur retour, je le répète, ils font bénéficier l'institution de leur expérience, de nouvelles références et de bonnes pratiques venues d'ailleurs. La Cour est en quelque sorte, comme le Conseil d'État d'ailleurs, un vivier pour la République et la société. Et dans une période récente, plusieurs magistrats ont accédé aux plus hautes fonctions de l'État ou à des postes de grande direction d'entreprise. Aujourd'hui, le corps est constitué de 400 magistrats, dont 225 en fonction à la Cour, soit à peine plus qu'avant la Révolution à la Chambre de Paris, de 61 rapporteurs venus de l'extérieur, de 70 assistants, et de près de 300 personnels administratifs. Et si l'on tient un recensement à partir de 1807, ce sont, en comptant les magistrats actuels, un peu moins de 1700 magistrats qui auront servi la Cour. Corps sélectif donc, mais aussi, je crois pouvoir le dire, singulièrement utile. Il me resterait en effet à répondre à une question ultime, aussi récurrente que, je crois pouvoir le dire, le contresens qui trop souvent la sous-tend, à quoi servent nos rapports? Ne constituent-ils pas autant de rappels à l'ordre légitime, mais vains? Je dirais volontiers que certaines idées sont d'autant plus promises à durer qu'elles sont infondées. Mais il faut dire que si les spécialistes d'un secteur connaissent bien les suites données au contrôle, elles sont en revanche peu connues du grand public. Peut-être la Cour ne s'est-elle pas assez préoccupée de rendre publics les résultats qu'elle obtenait, encore que certains de ces résultats ne peuvent s'observer que sur le moyen et le long terme, parce qu'une politique ne se corrige pas du jour au lendemain. C'est pourquoi, en tout cas, nous entendons désormais, à travers notre rapport annuel, faire mieux ressortir les avancées, les redressements et les réformes obtenues. De même que nous dénonçons, bien sûr, les résistances, les rigidités et les lenteurs qui nous seront opposées. Mesdames, Messieurs, vous le voyez, nous ne nous contenterons pas, en cette année 2007, de scruter le miroir de nos origines et de nous auto-célébrer. Cette année d'anniversaire sera surtout pour nous l'occasion de rappeler des messages simples sur notre rôle, et de faire un premier bilan des réformes et évolutions de ces toutes dernières années. Une publicité accrue de nos travaux en direction du citoyen, une assistance renforcée au Parlement, le développement des recommandations au pouvoir exécutif, ainsi que la nouvelle priorité accordée aux suites réservées à nos observations. Les célébrations sont également un puissant stimulant pour la conduite des réformes et des adaptations qui restent nécessaires. Car si la Cour cherche à mieux se faire connaître, l'évocation de son passé n'a d'autre sens que de mieux garantir les services qu'elle entend rendre encore demain à la France et aux Français. Être la gardienne du respect des lois et du trésor public, le mur d'airain de la fortune publique, comme l'auraient qualifié ses fondateurs. Être l'interprète d'une langue complexe, celle des comptes, et en éclairer pour tous les enjeux. Être la vigie d'une modernisation publique sans cesse menacée d'échouer sur les écueils de la complexité administrative. C'est dire si, en cette année de commémoration, notre regard et nos efforts seront avant tout tournés vers l'avenir. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, je sais être l'interprète de Monsieur le Procureur général, de Mesdames et Messieurs les Présidents de Chambre, de Monsieur le Premier Président honoraire François Laugereau, de Madame la Procureure générale honoraire Hélène Gistreau et tous les collègues qui ont bien voulu m'accompagner, en vous disant que ce fut un très grand honneur pour la Cour de venir frapper les trois coups des célébrations de son bicentenaire devant l'Académie des sciences morales et politiques. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, lors de sa communication sur le thème « La Cour des comptes à la veille de son bicentenaire » prononcé le 18 décembre 2006 en grande salle des séances devant l'Académie des sciences morales et politiques.